bienvenue à bord.
Bienvenue tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Moutou, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. On est ensemble, attachez vos ceintures de sécurité, une émission tellement, tellement pleine ce soir. Nous décollons tout de suite. Bien sûr, nous aurons des invités. Alvin Junior Marc va nous rejoindre. C'est un designer. Nous aurons aussi le professeur, le docteur Marélène Sefocle, qui va nous parler, bien sûr, de Black History Month, ou le mois des Noirs, des Afro-Américains, ici, aux États-Unis. On en parlera. Et bien sûr, plus tard, Jean-Louis va se joindre à nous. Et pourquoi pas aussi Lionel Gaïma plus tard. Et de la bonne musique country. C'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir nombreux à nous écouter, nous capter en live et surtout participer aussi à cette émission. Cette semaine, c'est Antenne Libre, on parle de tout et de rien cette semaine. Nous aurons aussi, pourquoi pas, le sport avec Georges Léonard Sagnon, parce que Cannes 2023 continue. Hey, Ivoirien, félicitations aux Ivoiriens, en tout cas. Et aussi aux frères et sœurs maliens qui sont sur place à Abidjan. On en parlera dans cette édition de RM Show. Merci infiniment à vous si vous êtes en train de nous capter. N'oubliez surtout pas que le numéro de téléphone pour m'avoir, c'est au plus 1-703-350-3731. Encore une fois, c'est au plus 1-703-350-3731. Si vous voulez envoyer un message sur WhatsApp, et on est là ensemble. Aujourd'hui, c'est country music, la musique traditionnelle américaine. On décolle. Baby, when I look at you with them baby blues cutting right through me, you set me on the rewind back to the good times when you couldn't get enough of me. I guess I'm giving myself away, saying all the things I never did say. I'll lose myself, there's nothing else I can do. Baby, when I look at you, you across the bar from me, and holding on to that turkey bottle, shooting them down and running full throttle. Oh, I can still taste the last time you and me and nothing but the tan lines keep running through my on and on and on and on. And baby, when I look at you with them baby blues cutting right through me, let me on the rewind back to the good time. Couldn't get enough of me. I guess I'm giving myself away, saying all the things I never did say. I lose myself, but nothing else I can do. Baby, when I look at you, yeah, baby, when I look at you, well, I know you know I'm watching you, low cut on the dance floor. It's shocking. Girl, you still do know how to serve it the way I did you, Lord, I deserve it. You know my heart, you know how to hurt it. Oh,
Next
écoutez RM Show, une émission de Beu Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Que de la bonne musique country. Ce soir, merci aux amis qui sont en train de nous capter ce soir à Brazzaville. Ceux-là qui sont en train de nous capter aussi à Kinshasa, pourquoi pas en Italie, en Grèce. Ici aux États-Unis, vous écoutez RM Show. C'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC. On vous le dit en titre d'ailleurs, qu'on aura le designer Alvin Junior Mac qui, n'est-ce pas, est notre invité aujourd'hui, Alvin Junior. Bonsoir et merci de nous accorder ce temps pour vous avoir ce soir.
À vous de me recevoir.
Ben super. Alors Alvin, vous êtes où exactement?
Je suis à Paris.
Ah, exactement. C'est là où ça se passe, hein, on dit.
Exactement, la mode, oui. Effectivement.
Effectivement. Alors, à Alvin, on sait que vous avez concrétisé comment vos ambitions en lançant cette marque, GMK à Paris, une marque née de votre passion pour la mode. Et c'est ça même qui nous a inspiré, nous a poussé à vous avoir ce soir. Qu'est-ce qui a inspiré Alvin Junior Mac à créer cette marque et comment cette passion, Alvin, pour la mode s'est-elle développée au fil de temps?
Cette passion me vient, déjà je pense par mes origines, je suis originaire du Congo Kinshasa, donc j'ai grandi, je suis né au Congo, et j'ai grandi dans une commune, dans une petite ville qu'on appelle Matongé. Et c'est un quartier où il y avait presque tous les week-ends des exhibitions de mode, des parades de mode, où des gens exhibaient un peu leurs vêtements. Et j'étais assez très très jeune, mais c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Et en grandissant, quand j'ai voulu entreprendre, vu que j'étais un peu, c'est une expérience qui m'a marqué. Et j'ai toujours aimé de la mode. Donc pour moi c'était plus facile d'entreprendre dans quelque chose auquel j'aimais. Et auquel je pouvais me retrouver.
Et vous retrouvez, effectivement, aujourd'hui, vous retrouvez en France. Du coup, pouvez-vous nous parler un peu de cette ambition d'Alvin de fusionner un peu, vous parlez de Matongé en même temps, mais fusionner la haute couture française avec l'esthétique décontractée, par exemple, du sportswear. Comment cette combinaison a-t-elle vraiment contribué au succès même de la marque?
Alors, cette symbiose est assez intéressante parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous regardez toutes les marques, chaque marque a une identité. Et moi, dès le début, ça a été mon identité. Donc, l'identité, c'est vraiment de rattacher ces touches urbaines avec la manière de travailler de la haute couture. Pour faire la différence, il y a dans la haute couture, c'est assez spécifique parce que quand on travaille dans la haute couture, il y a vraiment cette recherche des matières minutieuses, des coupes, des silhouettes qui sont assez travaillées. Et dans le prêt-à-porter, c'est un peu moins que ça. Donc, c'est plus de produits qui sont assez basiques. Et moi, l'idée, justement, c'était de prendre cette manière de travailler de la haute couture, le ramener dans cet confort urbain, dans cet aspect urbain avec les codes sportswear et autres. Donc c'était faire le mélange de ces deux cultures, vraiment la culture urbaine et cette manière de travailler de la haute couture pour mettre en avant cette marque.
Et effectivement, Alvin, je reviens toujours Matongé, c'est là où ça se passe, c'est la SAP. Effectivement, on comprend qu'il y a eu cette influence en tout cas sur votre parcours artistique.
Exactement, oui, ça a été une forte expérience, inspiration du moins, dans le sens où quand vous êtes très très jeune, moi je suis arrivé en France, j'avais 11 ans. Mais pour vous dire à quel point ça m'a marqué, parce que quand vous êtes jeune, vous voyez presque tous les week-ends des gens parfois qui n'ont pas forcément de l'argent ou quoi que ce soit, porter des vêtements de très grandes marques. Vous posez une question, mais comment c'est possible? Et ils sont toujours élégants. Et c'est en grandissant que j'ai compris que c'était un peu une manière pour ces personnes de fuir un peu de la situation ou de s'échapper du moins de la situation politique, sociale, les contraintes qu'ils pouvaient avoir. Et de se retrouver autour d'une passion qui les animait, qui les faisait vivre en dehors de des contraintes qu'ils pouvaient vivre au quotidien. Donc, quand j'ai voulu entreprendre, pour moi, c'était plus facile. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit, tiens, la mode, c'est une manière aussi de s'exprimer et de voir le monde autrement. Donc, à travers ma marque, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire, pour apporter un peu ma vision, les valeurs que je veux mettre en avant, bien sûr.
Non, mais ça, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté, ça, c'est sûr. Parlons un peu de... Je pense que c'est votre grand-père maternel qui était dans la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Est-ce que
exactement.
Ouais. Alors, en fait, est-ce qu'il y a cet héritage familial là aussi, quelque part attaché à cette inspiration d'Alvin?
Alors, dans ma manière de créer, en tout cas dans mon processus créatif, ouais. Je rends un peu hommage à mon grand-père, auquel je porte le nom. Mon nom, donc, c'est Alvin Junior Mac. Donc, le junior, c'est réfère par rapport à mon grand-père maternel, qui était, lui, militaire, un ancien militaire qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il était en même temps militaire et en même temps couturier. Et quand ma mère m'a donné, quand il est mort, ma mère m'a donné le prénom de Junior comme son junior papa.
Ouais.
Son papa, du moins. Et c'est un peu ma manière à moi, chaque collection. En fait, j'essaie de prendre un peu certains codes militaires. Mmh. Par exemple, sur cette collection, j'utilise beaucoup les épaulettes militaires.
Ouais.
Que j'essaie de le retravailler différemment pour le mettre en avant un peu aussi. Un peu ma manière à moi de lui rendre hommage à travers mes collections. Donc oui, il n'y a peut-être pas forcément quelque chose d'inné, mais il y a une continuité que j'essaie de suivre.
Ouais, une continuité que vous essayez de suivre en même temps. Et comment Alvin, et ça c'est une question par exemple que beaucoup aussi de ces hommes et ces femmes qui veulent aussi se lancer dans la mode, ils se poseraient sûrement la question, comment Alvin a-t-il développé son expertise dans l'industrie même de la mode française en commençant par des grandes enseignes comme H&M, on a lu cela, et aussi Zara, pour finalement rejoindre des maisons prestigieuses comme Balenciaga ou Gucci. Ça s'est fait pas du jour au lendemain quand même.
Non, effectivement. Ouais. En fait, moi, mon premier job que j'ai eu, je crois que je devais avoir peut-être 18 ans. Ouais. Mon premier job, c'était chez H&M. J'ai postulé, j'ai été pris. Et ensuite, je suis resté peut-être 2 ans. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien évoluer, j'aime pas me stagner. J'avais l'impression que j'avais fait un peu le tour, donc je voulais voir ailleurs. Donc, je suis allé chez Zara et ainsi de suite. Et j'ai commencé à monter petit à petit. Donc, j'ai acquis de l'expérience et je me suis dit, j'ai vu en fait le prêt-à-porter ou en tout cas les enseignes de grandes, de mass market. Et je voulais voir les enseignes de haut de gamme. Donc, j'ai postulé également. J'ai toujours été vendeur. Hein, j'ai jamais été dans des bureaux de création. Donc, j'ai toujours été vendeur. Donc, j'ai voulu ensuite pouvoir travailler comme vendeur chez H&M, Levi's, enfin des marques de middle gamme.
Ouais.
Donc Levi's, Todd et un autre. Et ouais, j'ai fini par travailler par Gucci et Balenciaga, toujours comme vendeur. Mais c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup aidé.
Effectivement.
Aujourd'hui, moi, la différence entre moi, le créateur, qui n'a pas forcément un parcours d'un créateur,
ouais,
par exemple d'une grande marque, qui va faire des études, qui va apprendre à l'école, comment ça se passe. La différence, c'est que moi, j'ai directement été au contact de clients. Je sais exactement ce que le client veut.
Ouais.
Je sais ce qu'il attend. Je sais qu'est-ce qui peut plaire, qu'est-ce qui ne peut pas plaire.
Mm.
Et en fait, mon expérience, mon expertise, justement, je l'ai puisée de cette expérience ou de vendeur. Parce que ça m'a permis vraiment d'échanger avec les clients, de connaître les goûts, les envies, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas.
Mm.
Et aujourd'hui, ça m'aide énormément dans mes créations.
Ouais.
Aujourd'hui, quand je crée une pièce, je mets en avant.
Ouais.
C'est très rare que quelqu'un vienne rentre dans mon magasin ou dans le showroom.
Ouais.
Il voit la pièce, il sort sans acheter. Soit il va revenir, soit il achète. Et c'est parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé cette expérience durant toutes ces années où j'ai passé tant que vendeur.
Et du coup, Alvin, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans cette carrière? Vous êtes encore jeune, vous avez commencé aussi jeune, mais est-ce que vous rencontrez déjà des difficultés qui vous empêchent un peu à progresser rapidement que vous le souhaiteriez peut-être?
Oui, bien sûr, les difficultés forcément, sinon les ambitions, ou du moins le projet ne serait pas parfait.
Ouais.
Dans le sens où y a des difficultés. Moi aujourd'hui, par exemple, je travaille, ma collection, toutes les collections que j'ai faites sont 100% Made in France.
Yeah.
Donc, quand qui dit 100% Made in France, c'est que vous travaillez avec des producteurs locaux, donc forcément ça coûte beaucoup plus cher que de travailler par exemple en Chine, où ça va vous coûter un peu moins cher. Mais c'est une décision que j'ai prise parce que l'idée, c'est de faire des produits où au moins je puisse contrôler, ne pas être au courant de ce qui se passe lors de la construction de vos vêtements, par exemple. Je ne sais pas si c'est pas un enfant en Chine qui va fabriquer mes vêtements ou des choses comme
ça. Exactement.
Donc, je préfère de faire ça ici.
Ouais.
C'est difficile, ça fait partie de contraintes, mais c'est quand même quelque chose qui est assez valorisant auprès d'un client, de savoir que ce vêtement a été fait par des personnes, des adultes, qui sont payés, qui sont nourris, qui vivent normalement. Et il y a aussi d'autres contraintes liées au développement de la marque. Quand vous venez du milieu urbain, parfois on vous prend très peu au sérieux.
Ouais.
Et on se dit, bah, lui c'est un jeune du milieu urbain, donc il n'a pas forcément peut-être le background ou l'expérience nécessaire pour se permettre de s'appeler créateur ou de dire qu'il peut... Il peut évoluer dans ce milieu de la mode, parce que la mode, c'est un milieu très, très fermé, même si ça commence à s'ouvrir aujourd'hui avec de plus en plus de jeunes designers issus de tout horizon.
Right.
C'est quand même un milieu qui reste très, très fermé. On va envoyer, par exemple, par-dessus de presse à une presse qui va même pas prendre la peine de regarder, parce que juste dans votre slogan, c'est Lyon par du chic, le mot urbain est parfois un peu dérangeant. Mais ça fait partie des choses, mais toutes ces contraintes font que... La victoire, elle sera en France, du moins que la victoire, elle sera encore plus belle. Donc, ça nous forge, ça fait que nous forger.
Ça ne fait que forger, mais il y a quelque chose que moi j'aimerais vraiment qu'on puisse parler aussi, Alvin. Jusqu'au point où vous travaillez avec des grands comme Dadju, c'est quand même pas petit, on dit.
Oui, effectivement. En fait, les collaborations avec tous les artistes, ça, c'est juste le fruit d'une vision que j'essaie de mettre en avant et le respect et la détermination que j'essaie de mettre en avant.
Ouais.
C'est des personnalités qui ont forcément des jeunes créateurs ou des marques qui les contactent.
Ouais.
Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec toutes ces personnalités, tout simplement. Parce que la manière dont j'essaie de mettre en avant chacune de mes collections, l'idée c'est vraiment de sortir d'une collection, à chaque collection elle soit différente et que ça qu'il puisse avoir une valeur ajoutée.
Ouais.
Et que ça puisse être authentique, unique. Et forcément quand tu es un artiste, tu retrouves quelque chose d'unique ou d'authentique, c'est ce que tu veux, mais tu veux porter. Donc avec Dadju, Bim, toutes ces personnalités, ce sont leurs stylistes qui sont venus me voir, parce qu'ils ont vu mes créations sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Et ils ont aimé. Il y en a certains aujourd'hui, c'est même des clients, ils achètent directement chez moi. Donc j'ai cette chance là de, grâce aux réseaux sociaux, de mettre en avant mes créations et le bouche à oreille également permet aussi d'accrocher toutes ces grandes personnalités.
En tout cas, c'est pas petite affaire. Restez avec nous, Alvin, parce qu'il y a des gens qui sont en train de m'écrire, envoyer des questions ici. Ils veulent que je puisse vous poser aussi. Je reviens dans un instant. On va respirer un peu en musique et puis on va passer à notre segment anglais English. Nous revenons. Et merci encore une fois pour le temps que vous nous accordez, en tout cas, ce soir, Alvin. Voilà, restez avec nous. La musique continue.
Ça marche.
Une émission de Veux Afrique en direct de Washington DC chaque soir entre 20h et 21h, temps universel, le moment aussi pour nous d'apprendre un mot ou une expression en anglais grâce à notre professeur d'anglais Michel Joseph. Elle est toujours prête pour nous, l'anglais, c'est tout de suite. Et bien sûr, vous êtes prêts pour apprendre un mot, une expression. Merci à tous ces étudiants à l'université Cheikh Anta Diop qui se préparent aussi chaque soir pour apprendre un mot, une expression. Michel, hello Michel.
Bonjour Roger, hello Roger, bonjour tout le monde, hello everyone. Le mot du jour, the word of the day, to make up. C'est le verbe to make accompagné de l'adverbe up, to make up. M-A-K-E, up, U-P. To make up, se réconcilier. We made up, on s'est réconcilié. To make up with your ex, se réconcilier avec son ex. To make up, A story, inventer une histoire. Si vous avez raté un rendez-vous et vous cherchez une excuse, un copain vous dira peut-être « Make up something, invente quelque chose. My team is made up of scientists. Mon équipe est formée de scientifiques. Did you make up your bed? Tu as fait ton lit? Back to you, Roger. »
Back to us, did you make up your bed? J'espère que vous avez bien écrit ce mot, cette expression. Bien sûr, vous êtes nombreux à apprendre à présent. Temps pour nous de passer à notre segment actu. Et bien sûr, vous êtes toujours prêts pour apprendre parce que VO Afrique vous informe chaque soir entre 20h et 21h temps universel aussi dans cette émission. L'actu, c'est tout de suite.
Au Sénégal, l'effondrement d'un immeuble à Dakar a fait 7 morts et plusieurs blessés, a indiqué mercredi le président sénégalais Macky Sall. Toujours au Sénégal, la mission déployée par l'Union européenne pour observer la présidentielle du 25 février demande à rencontrer le candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement emprisonné. Au moins 12 bûcherons ont été tués dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun, lorsque leur véhicule a heurté une mine dans une zone où les djihadistes de Boko Haram sont actifs. En République démocratique du Congo, 8 personnes ont été tuées, dont 5 dans une église, lors d'une attaque menée mardi soir dans l'est du pays par des rebelles ADF affiliés au groupe État islamique selon des sources locales.
Voilà, et voilà, c'est Ramchou. Merci beaucoup à Jean-Louis Mafema pour l'actualité. Bien sûr, chaque soir entre 20h et 21h, temps universel, quel privilège, quel honneur d'avoir l'invité de ce soir, Alvin Junior Mac, qui nous parle bien sûr de sa carrière de designer, très très important. Une grande question qui je vois qui revient sur WhatsApp. Alvin, beaucoup de gens veulent savoir si dans cette industrie-là, il n'y a pas vous qui... progresser en Europe, en Amérique, c'est ce qu'ils sont en train d'écrire. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté raciste, racisme dans cette industrie ?
Sûrement bien, et je pense même que oui. Mais moi, dans ma manière de progresser, c'est quelque chose que j'essaie de minimiser. Dans le sens où si je reste un peu trop focus sur ça, forcément tu ne progresseras pas, tu verras un peu tout le monde en raciste. Donc j'essaie d'être assez lucide et pragmatique dans ma démarche, c'est-à-dire même si je vois parfois parce que du moment où vous rentrez dans cet état d'esprit de raciste, on peut tout voir comme un raciste. Comme si on me refuse quelque chose parce que ma couleur de peau, on me refuse quelque chose. Parfois, c'est pas forcément question de couleur de peau, c'est juste peut-être que vous avez pas les mêmes attentes. Il faut juste l'accepter. Mais bien sûr que sur d'autres domaines, bien sûr, il y a du racisme. Il y a du racisme inconscient. Certaines personnes le sentent, ne le savent même pas par leur manière de parler ou d'agir ou de vous questionner ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose, oui, c'est sûr que ça existe. Mais il faut pas en faire quelque chose d'important dans le sens où de marcher avec cette conscience-là. Faudrait plutôt la minimiser. Moi, du moins, dans ma manière de progresser, c'est quelque chose que j'essaie de minimiser, de rester assez lucide et pragmatique sur ma mission et ce que je veux accomplir.
Alvin, moi, je suis vraiment à 150% d'accord avec vous. Ça, je peux vous dire.
Merci beaucoup.
Alvin, n'allez nulle part ailleurs. On va prendre un petit break de quelques secondes et nous revenons encore une fois pour quelques autres questions. Ok. Super. Vous écoutez RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington. Notre invité Alvin aujourd'hui aussi. Vos questions, c'est au plus 1-703-350-3731. Si en direct de Washington DC, que vous suivez cette émission chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Merci aux amis qui sont en train de nous capter aujourd'hui en Djamena au Tchad. Ce soir, nos amis qui sont à Abidjan partout là-bas et qui sont en train de suivre tous ces matchs qui se passent là-bas, nous sommes ensemble avec vous. Please don't go, RM Show continue dans un instant. God bless. Peace Africa. Please don't go.
show, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de visa. Tout le monde est
tiré. Vous avez branché sur la voix de la Nation dans le pays d'Haïti, pas raté voir ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion est un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et tout sandal. Roger Montou, RM Show, sur la voix de la Nation. À part le titre, on a ce qui est à toi. En tout cas, RM Show, la liste à vous, ça va. À part, on a tout à fait. À part.
Oui, yo, je te mets la parade de RM Show, Bané.
On décolle.
This is the RM Show, let's go. Vous écoutez RM Show, une émission de Vue Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Notre invité ce soir, Alvin Junior Mac. Oui, il est notre invité et je rappelle qu'il a pu fusionner deux modes qui à la création de la marque en 2017, tout le monde pensait diamétralement opposer la haute couture française et l'esthétique décontractée du sportwear qu'on est en train de parler d'ailleurs. Ce mariage surprenant a été identifié comme la clé du succès de J-Mac ex Paris qui aujourd'hui s'inscrit dans un virage que beaucoup de maisons de haute couture ont décidé de prendre. On en parle avec le designer lui-même, Alvin Junior Mac. Alvin Junior Mac, en première partie de cette émission, vous étiez en train de nous dire comment Matongé vous a aussi inspiré. Vraiment, ils ont influencé, si je dois le dire ainsi, influencé l'esprit même de Alvin et la philosophie derrière ce GMK, GMAC à Ex-Paris. Qui, d'après Alvin Junior Mac, est le plus grand sapeur de tous les temps congolais? Faites attention à la réponse. C'est une question piège. Est-ce que c'est Papa Wemba? Est-ce que c'est Joe Ballard? Est-ce que c'est...
Alors,
sûrement, je m'excuse d'abord de vous entendre, mais sûrement, vous avez regardé tous ces sapeurs passer devant vous comme ça à Paris, là-bas, c'est là où ça se passe.
Exactement, j'ai eu même la chance de recevoir un grand monsieur qui a gagné un concours ici qui s'appelle Norba de Paris.
Oh, mais là, c'est un grand, j'allais citer son nom après, effectivement. Merci de citer Norba de Paris, sinon il allait me tuer, lui, si on ne citait pas le nom de Norba dans cette émission.
J'ai eu la chance, il est venu me rendre visite, je crois, en 2019 ou 2018. J'avais sorti une collection, il avait vu, il avait beaucoup aimé, il est venu.
Ouais.
Et il m'avait beaucoup encouragé, il avait même fait une vidéo, d'autres personnes sont venues me voir après dans le magasin.
Ouais.
Et alors, ça dépend, on parle de quel Congo? Parce que si on parle du Congo.
Bonne question, cas, bonne question.
Congo, ou on parle du Congo Kinshasa,
ou alors on parle du Congo qui surveille le fleuve, c'est ça?
Ah, c'est une autre question.
Ah mais d'accord. Ouais, Norma de Paris alors, bah ouais.
Non mais après pour rester droit, je dirais du deux Congo, il y a des très très bons sapeurs et des personnes qui s'habillent de manière très très élégante. Donc sur les deux Congo, il n'y a pas vraiment un que je trouve plus que l'autre. Donc chaque les deux Congo sont très forts.
Très forts. Une question un peu personnelle. Nous sommes ici aux États-Unis. Est-ce que vous croyez que les Américains savent bien saper ou pas?
Alors, c'est assez subjectif. Moi, je peux vous dire, par exemple, quelqu'un qui va s'habiller de manière tout le temps classique peut se dire, je m'habille bien. Et autre, une personne qui va s'habiller, excusez-moi, de manière assez décontractée, en jogging ou en pantalon un peu délavé et autre, peut trouver s'habiller bien. Donc, c'est assez subjectif.
Ah, okay.
Mais je pense que la mode reste quand même européen et précisément parisienne. Les États-Unis, il y a d'autres domaines, mais la mode, c'est chez nous en France, c'est nous en Europe. Les États-Unis, c'est bien, mais mais je pense quand même que niveau habillement, c'est l'Europe et précisément la France qui domine.
D'accord, c'est une façon un peu polie de nous dire, Roger, vous là-bas, vous êtes nul, quoi. Merci.
Non, on a tout compris. Je ne me permettrai pas, jamais. Non, mais c'est différent. J'ai bien dit que c'était subjectif.
Oui,
je pense que quand même, la mode, elle reste parisienne, elle reste européenne.
Ça, c'est vrai, on est tous d'accord. En tout cas, c'était une question piège, mais on est tous d'accord. On sait. Et du coup, les gens qui sont en train de nous suivre ce soir, s'ils ont besoin de questions, comment ils peuvent vous suivre, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver sur les réseaux sociaux ou une adresse quelconque?
Oui, bien sûr. Alors, sur les réseaux sociaux, donc les réseaux de la MAC, c'est J comme J-M-A-K, X Paris. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, sur YouTube également, pour voir toutes nos vidéos, des interviews, des vidéos campagnes. Et pour nous contacter, c'est notre adresse mail, donc c'est jmakparis@gmail.com. Et sinon, pour découvrir nos collections, c'est sur le site internet, donc www.jmakparis.com. Donc je répète, www.jmakparis.com.
Super. Et c'est quoi le futur, l'avenir des JMK Ex Paris?
Alors là, pour l'instant, on va sortir notre collection dans deux jours.
Oui.
Donc le 2 février, notre nouvelle collection qui s'appelle Kairos. Ensuite, on a un pop-up store donc pour la date du 3 et du 4 février où on pourra recevoir toutes les personnes qui veulent découvrir la collection et venir me rencontrer pour échanger, prendre un verre et autres. Et par la suite, celles et ceux qui veulent découvrir la collection un peu plus en intimité, ils peuvent prendre rendez-vous sur notre site pour venir dans notre showroom pour découvrir la collection pendant une heure ou deux de manière assez privative.
Merci infiniment, Alvin Junior Mac. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé ce soir.
Merci.
Et bonne chance. Moi aussi, quand je m'arrête à Paris, pourquoi pas passer voir Alvin Junior prendre un verre aussi. Attends, qui va te négliger?
Comme
on dit à Abidjan, qui va te négliger?
Avec grand plaisir.
Allez, bienvenue chez vous à Paris. Merci. Hein. Merci
beaucoup. Et également. Merci.
Super. Au revoir. Voilà, c'était Alvin Junior Mac, le designer qui a bien voulu répondre à nos questions de ce soir. On écoute la country music, mais avant tout, je salue nos amis qui sont en train de nous capter sur WhatsApp. Hein. Merci beaucoup à Lil Barou à Bamako qui est en train d'écouter parce qu'il kiffe trop fort la country music. Lil Barou, merci infiniment. Qui encore nous capte, beaucoup d'amis sont en train de réagir. Country music, peut-on connaître quelles sont les origines de la country music? Oui, les premiers musiciens. Pourquoi pas? C'est mon ami Diallo Mamadou. C'est Lou qui nous capte. Oui, nous revenons bien sûr pour en parler dans un instant. D'abord, music.
Well, it's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag, roll a bed, stash behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bars, and the ink stains that I tried upon some life. That keeps you.
écoutez RM Show, une émission de Vue Afrique en direct de Washington. Vous écoutez bien sûr chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Une chose est certaine, ce n'est pas un style la country music pour nos amis qui ont posé cette question. La country music regroupe une grande variété dont les contours évoluent d'année en année. La musique country, pour nos amis qui ont posé cette question à Bamako, continue à rassembler de nouvelles tendances comme folk, rock, techno, country, latino. Toutes ces musiques que vous retrouvez bien sûr, ce sont là. La country music est apparue au 18e siècle dans les Appalaches, puis dans le Texas et en Virginie, non loin de chez nous ici. Ses racines sont les différents courants musicaux traditionnels, principalement européens, qui sont venus de l'Europe, des Irlandais, des Français qui ont apporté cela à tous ces immigrants qui venaient ici aux États-Unis lors de l'épopée même de la conquête de l'Ouest. C'est là où cette musique est venue ici. Enfin, aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savent peut-être pas, mais il y a aussi les Afro-Américains qui ont contribué à la création de cette musique country. Voilà, vous écoutez RM Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington DC. Le mois de février ici aux États-Unis, c'est aussi le mois des Afro-Américains, des Noirs ici aux États-Unis. Et c'est un mois où on célèbre l'histoire même des Afro-Américains ou des Noirs américains, comme certains les appellent. On a reçu le docteur Sefocle, professeur à l'université de Howard University, Ginny et moi, pour en parler. On vous fait écouter un peu un petit bout de cet entretien. C'est avec un grand plaisir que nous pour discuter du mois de l'histoire des Noirs. Le docteur Sefocle, je rappelle ici, éminente experte et polyglotte passionnée, apporte une perspective riche et éclairée à la célébration et à la compréhension même de l'héritage noir. Merci en tout cas de répondre à cette invitation pour parler sur les divers aspects de l'histoire des Noirs. Bonjour madame Sefocle.
Bonjour.
Ça va bien, j'espère,
Oui, ça va, merci.
Ben super. Alors, je commence avec ma première question. Pouvez-vous partager une expérience personnelle ou une histoire qui a eu un impact significatif sur votre compréhension même de l'histoire des Noirs?
Alors, l'histoire des Noirs américains est extrêmement importante. C'est la genèse même de l'histoire des États-Unis. Souvent, enfin, c'est, comme vous l'avez vu, dans certains États, on essaie de l'oblitérer, on essaie de l'éliminer. Mais elle est là, elle est présente, c'est la base même de la société américaine. S'il n'y avait pas eu l'esclavage, il n'y aurait pas eu les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. Donc, c'est le grand péché des États-Unis, parce que ça a été une période atroce pour les Africains-Américains, et ça a permis, si vous voulez, l'essor des États-Unis. Il y a maintenant deux courants de pensée, ceux qui pensent que non, les États-Unis auraient été ce qu'elles sont sans l'esclavage, et il y a un autre courant de pensée qui est beaucoup plus réaliste, celui-ci, et qui montre que vraiment la base même économique des États-Unis, c'était l'esclavage, en fait. Certains frères dans une même famille, certains se rendaient vers le nord et faisaient de l'industrie, d'autres restaient dans le sud et faisaient de l'agriculture et avaient des esclaves, mais la base même de la fortune de ces familles venait de l'esclavage, malheureusement.
Et donc, Oui, Madame Sefocle, tout courant confondu, quels sont selon vous les événements incontournables de l'histoire auxquels il faut vraiment être sûr que les gens les connaissent?
Ben, il faut d'abord penser à 1619, la date, le 1619, c'est une date extrêmement importante, parce que c'est la date où il y a eu les premiers esclaves qui venaient d'Afrique et qui avaient séjourné à la Barbade et qui sont arrivés sur les côtes de Virginie. Donc là, il s'agit d'un moment crucial. Vous avez une éminente historienne, Madame Hannah Jones, Nicole Hannah Jones, qui a écrit un livre qui est un véritable chef-d'œuvre, qui s'appelle d'ailleurs 1619, et qui montre que toute la base, à la fois de l'économie et de la société américaine, anglo-américaine surtout, a reposé sur cette date de l'arrivée des premiers esclaves dans le monde anglophone. Parce qu'il y a eu l'esclavage avant cela, dans les années 1525, aux États-Unis, surtout dans le sud, dans la Floride, qui a été perpétré par les Espagnols, et qui n'était pas un esclavage, comme on dit en anglais, chattel slavery. Ce n'était pas le même type d'esclavage, parce que eux, à partir du moment, dans le contexte espagnol, à partir du moment où on se convertissait au catholicisme, on pouvait être libéré. Tandis que chez les anglophones, ce n'était pas du tout le même cas. Ils esclavisaient même leurs propres enfants.
Ah, Madame Sefok, y a-t-il, on connaît comment cette histoire est vaste, y a-t-il des figures ou des événements spécifiques de l'histoire des Noirs qui vous semblent, vous, particulièrement inspirants ou influents pour que nos auditeurs ou les téléspectateurs peuvent entendre ?
Eh bien, il y a évidemment l'histoire de Harriet Tubman. Harriet Tubman qui a libéré des centaines d'esclaves. Elle-même, elle était esclave et elle avait trouvé un chemin qui pouvait faire faciliter que les esclaves puissent s'échapper de leur plantation et se rendre vers le nord, vers le Canada. Et donc, toute cette période pendant laquelle elle a permis aux esclaves de quitter les plantations et de se rendre vers le nord, surtout vers le Canada, c'était une période extrêmement importante pour les États-Unis. Et parallèlement, elle rencontrait des blancs américains qui, eux, étaient abolitionnistes et elle donnait de l'eau à leur moulin en montrant, voilà, c'est possible, c'est faisable, et elle travaillait avec eux. Il y a eu évidemment la guerre, la Civil War, la guerre civile des États-Unis qui a mis un terme à l'esclavage. Et donc cette période de 1865, donc vous avez déjà 200 ans qui se sont écoulés entre 1619 et 1865, 250 ans. Et donc durant cette période, vous avez le Nord contre le Sud, vous avez des personnalités américaines qui émergent de tout cela, comme Lincoln, comme le président Lincoln, qui a d'ailleurs été assassiné.
Effectivement.
Et donc le président Lincoln, lui qui au départ n'était pas tellement contre l'abolition de l'esclavage, dans sa famille il y avait des esclavagistes, mais après, il s'est rendu compte à l'évidence que c'était un système à abattre,
Alors le mois de février, comme on le sait, c'est le mois de l'histoire des Noirs, mais comment assurer que l'histoire des Noirs ne soit pas seulement reconnue en février, mais intégrée à notre conscience collective tout au long de l'année ?
Alors là, c'est le combat des éducateurs en ce moment, parce qu'il y a énormément de forces très conservatrices qui veulent éliminer certains livres, certains chapitres de l'histoire américaine sous le prétexte que ce ne serait entre guillemets « woke ». Donc, c'est-à-dire que ce serait une façon de permettre aux Américains de découvrir certains aspects de l'histoire américaine qu'ils n'aiment pas trop révéler. Mmh. Donc, il y a cette espèce de bataille rangée entre les forces progressistes qui veulent que, évidemment, l'histoire soit enseignée, comme on dit aux États-Unis, good, bad or evil, et ceux qui veulent cacher une partie de l'histoire, édulcorer l'histoire et montrer que les États-Unis ont une histoire très douce, un pays béni par la nature, béni par les dieux, avec les personnes, des personnalités extraordinaires. Mais en fait, comme vous voyez, ce n'est pas du tout le cas. Même les pères fondateurs de la nation ont été des esclavagistes.
Alors, je finis avec notre dernière question, Dr. Sefok. Vous êtes professeur à Howard University. Pouvez-vous recommander des livres, des films ou des documentaires que vous estimez offrir des perspectives précieuses sur l'histoire des Noirs ?
Alors, tout d'abord, il y a le livre de Nicole Hannah-Jones, 1619, hein, qui est un livre fondamental. Il y a le livre d'Elizabeth, Isabel Wilkerson, qui s'intitule Le Caste, et dont on a fait un film d'ailleurs, qui s'appelle Origins. Le film lui-même s'appelle Origins. Et le livre dont il est tiré est Caste. Parce qu'il s'agissait, en fait, le système esclavagiste aux États-Unis, c'était un véritable système de caste, en fait. Mmh. Un peu comme le système de caste indien, ou alors comme le système de caste que les nazis avaient mis sur pied. Il y a aussi un livre qui s'intitule Black Jacobins. Vous avez un film tel que, par exemple, Slavery by Another Name, parce qu'après l'abolition de l'esclavage, l'esclavage a continué, mais il a continué sous une autre forme. Et cette forme, c'était ce que l'on appelle le convict leasing system, c'est-à-dire un système où, par truchement, ils ont essayé non pas de vendre des esclaves, mais de les louer.
Ah, ah.
Oui, puisque l'amendement, le 13e amendement disait qu'il ne fallait pas vendre des esclaves. Et alors ils se sont dit, dans le sud, certains se sont dit, on va les louer. Ouais. Voilà. Et c'était un système qui était encore plus dur que l'esclavage et qui a perduré à peu près près de 100 ans. Après l'esclavage.
Après l'esclavage, je m'imagine. Docteur Stéphane, Marilyn Stéphane, je rappelle que vous êtes professeur à Howard University. C'est toujours un grand plaisir et c'est toujours un honneur, en tout cas, de vous avoir. Merci infiniment. Nous savons que vous avez classe tout de suite, là. Et merci pour le temps que vous nous accordez. Merci, docteur Stéphane.
Je vous en prie.
D'accord.
Super.
Et bien sûr, on apprend toujours. Merci beaucoup à elle. Vous écoutez Aram Show, une émission de Vue Afrique en direct de Washington. Salutations aux amis qui sont en train de nous capter dans tous les grains de Bamako. Et bien sûr, tous les amis qui nous captent à Yaoundé ce soir, ceux-là qui sont en train de nous capter à Douala. Et comment oublier les amis de Lomé au Togo, N'Djamena au Tchad. Vous êtes scotchés à écouter Aram Show chaque soir entre 20h à 21h temps universel. On n'oublie pas nos amis de Tchikapa et nos amis de Bandunduville, aussi scotchés en train de nous capter. Aram Show, on va à présent passer à notre magazine Sport. Cannes 2023, il est toujours prêt de nous en parler, de nous dire ce qui se passe. Lui, c'est Georges Léonard Sagnon. Hello, George.
Bonsoir Roger, bienvenue à toutes et à tous. La Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 continue de livrer son lot de surprises. Les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale sont connus depuis hier et il s'agit du Mali et de l'Afrique du Sud. En effet, Roger, les Bafana Bafana ont piégé les Lions de l'Atlas au stade Laurent Pokou de San Pedro 2-0. Le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial, arrivait à cette canne avec beaucoup d'ambition et d'espoir, mais n'ira pas plus loin que les huitièmes. Un échec que son sélectionneur dit assumer. Écoutons Walid Regragui.
J'ai échoué, Lyon. C'est mon échec, c'est pas celle des joueurs. On a un bon effectif. La fédération nous a donné les moyens. Jomorja, vous êtes venu. On a échoué. On va réfléchir et on va avancer.
À présent, écoutons le coach de l'Afrique du Sud, Hugo Brousse.
Intrinsèquement, ils ont beaucoup plus de qualité que nous. On a des joueurs locaux. Il faut choisir, il faut trouver une solution pour contrer une équipe pareille. Donc aujourd'hui, on a fait ça en jouant très collectif, très regroupé.
Avant l'Afrique du Sud au Roger, il faut dire que le Mali a arraché aussi son ticket pour les quarts de finale en disposant hier du Burkina Faso 2-1 à Korogo. C'est le repos aujourd'hui et demain. Les oppositions des quarts de finale commencent vendredi avec à l'affiche Nigeria-Angola au stade Félix Oufette-Boigny à Abidjan à 17h, temps universel, et juste après à 20h au stade Alassane Ouattara de Bempe, toujours à Abidjan, la République démocratique du Congo défiera la Guinée. Les deux derniers autres quarts de finale se joueront samedi à 17h au stade de la paix de Boaké. La Côte d'Ivoire, pays hôte, sera face au Mali et à 20h, on aura le duel Cap-Vert-Afrique du Sud au stade Charles Konabani de Yamoussoukro.
Et voilà, Roger, c'était tout pour l'espoir de ce soir. Avant de vous quitter, faisons un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent du côté de Madagascar, là-bas dans l'océan Indien. À demain.
Merci beaucoup à Georges. Léonard Sagnon, merci beaucoup à lui et bonjour, oui c'est vrai, aux amis de Madagascar, mais il ne faut pas oublier Georges, saluer aussi nos amis de Nzérékoré et de Guinée-Conakry que nous, la RDC va battre le vent de l'eau. Georges Léonard Sagnon, je sais que vous nous captez ce soir avec toute la famille, on salue tout le monde, Jean-Paul, Germain, maman, tout le monde, on vous salue bien sûr, on va voir que le meilleur gagne le vendredi, Georges, ça sera un grand combat de ces deux grands pays amis, Guinée, Conakry et RDC ce vendredi, aïe aïe aïe, ça va chauffer. Country Music continue, la musique traditionnelle américaine que nous aimons tous.
Sitting on the bar, stomp your feet, start clapping. Got a real good feeling, something bad about to happen. Pulled up to the church, but I got so nervous. Had to back it on up, couldn't make it to the service. Grabbed all the cash underneath my mattress. Got a real good feeling, something bad about to happen.
Écoutez, I'm sure une émission de Vavrik en direct de Washington DC. Country music ce soir. Et je vous laisse avec ce son que j'aime beaucoup.
Yeah.
Et voilà les amis, c'est ici qu'on atterrit ce soir. Merci beaucoup à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission jusqu'à la fin. C'était votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Espérons que vous avez aimé nos invités de ce soir. Bonne nuit là où vous êtes. Hein. La nuit pour ses conseils. God bless. Peace Africa.